Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Alors, juste pour replacer dans le contexte, nous avons décidé pendant ces 2 mois d'été, 9 dimanches, de parler du fruit de l'esprit. Nous remarquons que le fruit est au singulier et qu'il a plusieurs composantes, comme la pomme avait de la peau, de la chair, des pépins, une queue, etc. Le fruit de l'esprit a plusieurs composantes. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la joie, qui fait partie aussi de ce que nous devons développer dans nos vies. Philippe, qui prêchait la semaine dernière, nous rappelait que le mot « fruit » est souvent employé dans la vie courante, le fruit d'un travail, le fruit d'une politique. Et donc, le fruit, c'est ce que l'esprit produit en nous, le résultat, l'aboutissement de son travail en nous. Ce que je vous propose, c'est de regarder un peu ce que c'est que la joie, et en particulier de le regarder à travers ce que dit la Bible. Quand on pense à la joie dans la Bible, on arrive rapidement à ce verset qui dit « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Un verbe, un impératif, une exhortation, un ordre, « Réjouissez-vous !» Premier problème, est-ce qu'on peut contrôler la joie, la susciter, la faire jaillir, la ressentir quand on veut, juste parce qu'on nous en donne l'ordre? J'ai regardé le dictionnaire qui nous dit que la joie, c'est une émotion agréable et profonde, un sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. Est-ce qu'on peut générer une émotion, un sentiment? On a plutôt l'impression que c'est quelque chose qu'on subit, qui nous tombe dessus. Quand c'est la joie, on est content que ça nous tombe dessus. Par exemple, si je regarde un match et que mon équipe préférée, jouant en jaune et bleu, marque un essai, je ressens de la joie. Mais si l'équipe adverse, par exemple, jouant en rouge et noir, marque un essai et passe devant au score, cette joie disparaît. La joie m'apparaît donc comme quelque chose de bien volatile et dépendante des circonstances. Alors, il existe des joies plus durables. Si cette même équipe, jouant en jaune et bleu, remporte le match, ou bien mieux, un trophée de champion, cette joie va durer un moment. Mais en même temps, si je me casse une jambe en sortant de chez moi, juste après le match, vais-je rester en joie? Peut-être. Peut-être si j'arrive à faire la part des choses et à me souvenir que oui, j'ai une jambe cassée, mais quand même, on est les champions. C'est beau de rêver. Du coup, ça nous donne une piste. Est-ce qu'on ne peut pas cultiver la joie en gardant son esprit orienté vers les bonnes choses et en prêtant moins d'importance aux autres, à celles qui m'attristent, pour ainsi rester en joie? Il suffirait de regarder les choses du bon côté. Ça pose la question, est-ce qu'il y a toujours un bon côté? C'est la limite de la pensée positive. Parfois, les circonstances sont tenaces, elles sont lourdes. Alors, est-ce qu'il faut exagérer les joies que l'on croise, voire les inventer et se déconnecter de la réalité? Où pouvons-nous regarder pour trouver la joie? La Bible nous enseigne que Dieu est source de joie. Je vous lis ce verset qui se trouve dans le livre des Psaumes, où le croyant s'adresse à Dieu pour lui dire « Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. » On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel en toi. Et si on lit ce psaume quelques versets plus tôt, on voit que découvrir Dieu, marcher avec lui, c'est source d'une joie nouvelle. Parce qu'en marchant avec Dieu, on découvre un soutien, le plus fort des soutiens, inébranlable auprès de qui on connaît la sécurité. On y découvre la sagesse qui nous guide dans la vie et qui nous permet d'éviter bien des pièges et de rester sur le chemin de la vie. D'ailleurs, à lire ce texte, on pourrait penser qu'il suffit d'être auprès de Dieu et on est heureux. Mais est-ce vraiment le message biblique? Parce que nos vies, même celles des chrétiens les plus solides, ne sont pas de longs fleuves tranquilles. Nous faisons face, comme tout le monde, à la détresse, au doute, à la tristesse, à la maladie, à la mort. Et cette expérience, nous la connaissons non pas parce que nous manquons de foi. Les modèles bibliques, les personnages avec la plus grande foi, connaissent également ces difficultés. J'aime beaucoup cette phrase du pasteur Eugene Peterson qui a écrit « La vérité est qu'il n'y a pas beaucoup de gens heureux dans la Bible. » On retrouve en revanche des gens qui connaissent la joie, la paix et la signification des souffrances du Christ dans leur vie. Il est important de ne pas confondre la joie avec le bonheur. La joie, ce n'est pas le bonheur. La joie en Dieu est une joie que l'on peut connaître et vivre malgré les difficultés. Et cette joie qu'on découvre malgré les difficultés et les circonstances, elle plonge ses racines dans l'œuvre du Christ. Suivons l'invitation d'Eugene Peterson et écoutons ce que Jésus a à dire sur la joie. J'aime cette parole de Jésus à ses disciples qui leur dit « Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Dans ce verset, le mot « plutôt » est important. Alors que les disciples sont enthousiastes de ce qu'ils viennent de faire reculer les puissances des ténèbres en chassant les esprits mauvais, hein, c'est ce qu'on lit dans le récit biblique juste avant. Ce sont des actions très positives dont Jésus se réjouit, mais il leur dit que même si ces actions sont positives, ils devraient avant tout se réjouir d'être sauvés. La plus grande source de joie, c'est l'espérance chrétienne. Cette espérance qui peut être résumée dans cette parole de Jésus, « Moi, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Voilà. Voilà l'espérance chrétienne. Et c'est sur la joie du salut qu'il faut compter. Celui qui met sa confiance en Jésus, qui accepte son pardon et se réconcilie avec Dieu, celui-là a la vie éternelle. Et cela ne s'arrête pas là. Il est aussi appelé enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu vit en lui, etc. Devant un tel gain, un tel bénéfice qu'il y a à être en Dieu, je crois, mes amis, qu'il y a matière à se réjouir durablement. N'est-ce pas? Et j'irai plus loin. La joie, elle n'est pas seulement dans l'action que Jésus-Christ a eue pour nous, dans la transformation à laquelle il nous invite, elle est aussi dans les promesses de ce qui vient. Parce que nous croyons que Jésus reviendra, il nous l'a promis. Nous croyons qu'il reviendra et qu'il rendra justice, que ce qui est injuste, ce qui nous heurte, ce qui nous révolte, sera mis en lumière et prendra fin. Nous voyons également aujourd'hui son esprit agir, des personnes se convertir et être sauvées. Oui, son royaume avance. Et c'est là encore un sujet de joie. Nous cherchions un sujet de joie plus grand, sur lequel nous pourrions fixer les yeux, attacher notre regard, nous l'avons en Jésus-Christ, à travers son espérance. Est-ce à dire que la seule joie possible se situe dans l'espérance d'une vie après la mort ? C'est un reproche qui a été fait au christianisme d'inciter les gens à tout supporter, y compris la justice, et se faire l'allié des puissants. La joie, c'est pour plus tard, pour après la mort. Si on regarde la vie de Jésus, l'homme parfait, ce n'est pas ce que je vois. Je vois en regardant Jésus un homme qui a connu la joie dans ce qu'il a vécu, qu'il a apprécié, qu'il a recherché. Il a eu des amis avec qui il s'est réjoui. Il aimait manger et faire la fête, ce qui a d'ailleurs choqué certains. Et il s'est réjoui énormément. Chaque fois qu'une personne perdue, c'est une personne perdue, embourbée dans son péché, a trouvé le bon chemin, celui qui mène au Père. Et cette joie qu'il a saisie n'a pas empêché une action forte pour apporter le salut au monde, pour combattre l'injustice. L'espérance qu'il avait de ce qui venait était sa force dans son action. Et c'est la même chose pour nous. Je crois qu'avoir les yeux fixés sur la grande joie de l'œuvre du salut nous permet de recevoir les petites joies du quotidien et de les vivre avec plus d'intensité. Parce que nous pouvons les vivre sans arrière-pensée, sans crainte qu'elles disparaissent, qu'elles soient effacées par l'événement suivant. Peu importe qu'elles durent longtemps ou qu'elles passent, nous les recevons avec joie, sachant que nous avons une joie plus grande et qui arrive dans une dimension plus extraordinaire encore. Ce n'est pas facile à vivre. Soyons honnêtes. Et c'est pour ça que c'est cité dans ce verset de Galates comme fruit, composante du fruit de l'esprit. C'est parce que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas générer nous-mêmes par nos efforts avec une pensée positive. Nous avons besoin de l'esprit qui oriente nos regards, qui oriente nos cœurs vers cette espérance. Nous avons besoin qu'il fasse grandir en nous la conscience de ce que nous avons en Jésus-Christ pour que nous puissions nous y accrocher avec force et ainsi vivre dans la joie, ce qui le glorifie. Amen. Je vous invite à chanter notre joie, à proclamer.